Poursuivons maintenant avec notre prochaine invitée qui s'appelle Marie Spotvin, une dame qui enseigne à l'UQAM et qui est spécialiste des rapports ethniques. Et Dieu sait qu'on a besoin de partage de connaissances à ce sujet-là, particulièrement depuis quelques semaines. Mais ce à quoi nous assistons actuellement est seulement le fruit du meurtre de George Floyd, où il y avait une espèce d'accumulation depuis des mois, depuis des années. Il y avait quelque chose que les populations avaient envie d'exprimer. Eh bien, Mme Potvin est avec nous au bout du fil. Mme Potvin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en rapports ethniques, en immigration, en racisme, en discrimination. Évidemment que les événements des dernières semaines doivent vous interpeller. Avez-vous réfléchi à des explications? Est-ce que le meurtre de George Floyd est l'élément déclencheur? Certainement. Mais est-ce que ce n'est que lié à ça?
Ben écoutez, je pense qu'il y a des effets cumulatifs, puis des fois il y a des momentum qui se créent. Le contexte notamment de la COVID-19 fait en sorte aussi que, comment je peux dire, il y a peut-être aussi une accumulation de gens qui sont sur le chômage, qui ont perdu leur emploi, la pauvreté. Il y a plus de gens affectés dans certains quartiers, par exemple, ou dans certaines villes, notamment dans les villes où il y a beaucoup de populations noires, des gens des minorités, etc., qui sont beaucoup plus affectés par la crise. Et il y a aussi l'effet cumulatif de Donald Trump, là, qui, par ses prises de position incendiaires, comme on le connaît, fait en sorte que ça rajoute de l'huile sur le feu, évidemment. Donc, ça a créé une espèce de momentum qui fait que pendant, c'est peut-être une bonne occasion de se faire entendre dans le contexte actuel, mais pas juste aux États-Unis. Évidemment, la société américaine, elle a sa propre dynamique de racisme systémique inscrite dans les lois pendant des années et des années. On le sait, là, le mouvement des droits civiques a voulu démolir ce système raciste où la race a une signification particulière dans le contexte américain, mais ça a influencé aussi ce mouvement-là à travers le monde. Aussi parce que à travers le monde, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est la montée des extrêmes droites, la montée des groupes populistes, des partis d'extrême droite, des régimes racistes dans certains États. Et nous, on a connu en particulier au Québec 12 ans de débats publics intenses, là, on se rappelle, là, sur le voile, les signes religieux,
les accommodements raisonnables, ouais. Ah, les femmes autochtones, aussi, sujet très important, oui.
Puis aussi, en 2017, il y a eu une commission ratée sur le racisme systémique qui a fini en queue de poisson, on se rappellera, alors qu'il y avait une grande mobilisation de jeunes, surtout de jeunes, je dirais, nés ici, des minorités racisées, on appelle souvent des minorités visibles là, dans le recensement canadien, mais qui veulent faire entendre leur voix parce que c'est des jeunes dont les parents souvent ont immigré, mais que eux veulent pas nécessairement vivre, si on veut, le même genre de situation discriminatoire que leurs parents ont même eux-mêmes connu. Et donc, il y a un effet cumulatif et il faut entendre à un moment donné ces voix-là dans la société. C'est des insatisfactions qu'on peut pas négliger ou occulter trop longtemps.
Le concept de racisme systémique, là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que pour le commun des mortels, c'est pas si clair que ça comme statement, entre guillemets, de dire le Canada, oui, il y a du racisme systémique. Et on voit que même des politiciens, là, c'est du bout des lèvres qu'ils se positionnent. M. Trudeau est entré là-dedans sans aucune hésitation de dire oui, il y a du racisme systémique. Mais on sent que c'est pas tout le monde qui y va avec la même candeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben justement, le racisme systémique ou la discrimination systémique qui peut être raciste, qui peut être sexiste, peut être classiste, ça, selon les motifs là, de discrimination. C'est un concept qui a été, en fait, inventé par les juges. Donc, ça, on peut pas dire que ça existe pas si les juges ont reconnu dans la jurisprudence que en Cour suprême, qu'il y avait des cas, des situations de racisme systémique ou de discrimination systémique là, depuis les années 80. Donc, il y a eu une affaire célèbre concernant les femmes, là, une cause célèbre. Et c'est dans cette cause-là que les juges ont défini ce que ça veut dire, la discrimination systémique. C'est un effet, si on veut, de mentalité, de situation d'inégalité qui sont cumulatives pour un groupe, dans le fond, et qui font intervenir, c'est un espèce d'amalgame entre des pratiques sont pas adaptés ou des normes qui sont pas adaptées, des décisions, puis des comportements individuels, mais qui parfois sont involontaires. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que les gens sont des méchants racistes, mais involontairement, en appliquant certaines règles, par exemple, si on fait passer un test de français à quelqu'un qui parle pas la langue, ben c'est sûr que ça va être préjudiciable pour cette personne-là. Donc, si on adopte des pratiques qui sont pas adaptées, par exemple, donc ça peut avoir un effet préjudiciable sur un groupe de personnes. Et on s'était rendu compte, donc les juges ont réalisé que dans certaines entreprises ou certains ministères ou certains contextes précis, ben il y avait un effet systémique, par exemple pour les femmes, alors qu'on demandait, par exemple, qu'il y ait 10 ans d'expérience, qu'ils pèsent 200 livres ou je sais pas quoi pour occuper des postes,
oui.
Alors que les critères étaient pas adaptés ou ils étaient pas nécessaires. T'sais. Donc, si on applique des critères ça avait pour effet d'éliminer ce groupe-là, comme dans la police, par exemple, pendant très longtemps. Donc, c'est un effet systémique et ça existe déjà. Donc, si on a adopté des programmes d'accès à l'égalité pour renverser la discrimination systémique. Donc, on peut pas dire que ça existe pas. C'est un peu bizarre qu'il y ait des politiciens qui disent qu'il n'y a pas de racisme systémique ou de sexisme systémique ou de toute autre forme de discrimination systémique parce qu'il y a des programmes d'accès à l'égalité qui essayent de renverser la discrimination systémique.
Vous l'avez dit, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre et on voit qu'il y a des volte-face assez rapides parce que les mêmes personnes reviennent deux jours plus tard dans un point de presse pour dire que là, il y a urgence d'agir pour corriger la situation face au racisme systémique. Comment voyez-vous la suite des choses? Pouvez-vous vous projeter dans un futur pas trop éloigné de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce mouvement social-là? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre qui va contribuer à changer pour le mieux notre société?
Oui, ben écoutez, à cet égard-là, il y a plusieurs propositions qui circulent. Je ne sais pas si vous avez vu, oui. Par exemple, le mémoire de la ville de Montréal, en tout cas, il y a du conseil interculturel. Mais il y a plusieurs propositions qui avaient été déjà amenées en 2006 dans une consultation publique du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. Là, je me souviens plus comment il s'appelait à l'époque, mais en 2006, il y a eu une consultation pour élaborer une politique antiraciste, si on veut, là, pour éliminer le racisme et la discrimination systémique. Et ça donnait lieu à une politique un peu édulcorée qu'on a appelée la diversité, une valeur ajoutée. Puis là, depuis ce temps-là, ça a créé un peu des attentes dans la population, mais dans les pistes qui avaient été amenées déjà à l'époque. Et je pense qu'une des premières étapes, c'est de reconnaître et de nommer, de dire que ça existe. Donc, il faut d'abord reconnaître le problème, c'est la première étape.
Oui.
Avant de dire qu'on prend des engagements, il faut déjà dire que ça existe. Il faut le documenter dans le sens où c'est déjà beaucoup documenté, mais dans le sens où on doit dire ben en emploi, dans le logement, en éducation, dans différents secteurs, comment ça se joue en ce moment? Est-ce qu'on a des indicateurs, des mesures? Est-ce qu'il y a des petits sondages à l'intérieur des entreprises ou des ministères pour savoir si ça existe ou pas? Comment identifier les endroits où ça se joue ou ça se joue pas? Les promotions, le recrutement, etc. Donc, il faut voir dans ce qu'on appelle les systèmes d'emploi aussi, est-ce que les gens appliquent de faire un diagnostic, finalement, dans certains milieux. Ça, c'est la deuxième ou troisième étape. Donc, utiliser des données, recueillir des données, utiliser des indicateurs, construire des indicateurs. Et puis, ensuite, essayer de voir comment introduire ça dans les milieux avec les personnes directement aussi concernées, consulter les gestionnaires, consulter les directeurs d'école, les employés, les gens des minorités. Est-ce qu'il y a des pistes, des propositions? Donc, impliquer la population ou la communauté dans les pistes de solutions. Et élaborer donc un système pour recevoir aussi peut-être des plaintes dans plusieurs milieux pour voir si ça existe, envoyer ça ensuite à la Commission des droits de la personne si c'est pertinent, avoir peut-être des systèmes psychologiques pour les gens qui vivent ça, parce que les gens qui vivent souvent du harcèlement raciste ou de la discrimination raciale, ben ils pensent que c'est de leur faute, puis ils pensent que c'est juste dans leur tête, puis ils n'ont pas de preuves, et puis c'est difficile à mesurer, etc. Fait qu'il y a plusieurs actions, mais aussi, comme à l'école, plus spécifiquement en éducation, ben peut-être faudrait aussi reconnaître davantage la contribution historique de différents groupes, notamment les Noirs, qui sont venus ici très tôt en Nouvelle-France. Il y a eu de l'esclavage. Donc, reconnaître toute cette histoire-là, c'est important pour les jeunes, notamment, qui se reconnaissent dans l'histoire dont on parle à l'école, par exemple.
Bien, c'est fort. Capable,
donc, oui. D'en parler ouvertement, c'est la meilleure solution que de l'occulter, plus que de l'occulter, là.
Ouais, fort intéressant tout ça, puis on pourrait en parler pendant des heures. J'aimerais avoir votre opinion peut-être sur une autre facette, peut-être sommairement. La montée de l'extrême droite, on voit ça depuis quand même quelques années. Est-ce que vous croyez que ça va s'essouffler ou c'est un mouvement qui est là pour rester?
Ben écoutez, en général, on dit que les populismes puis les extrêmes droites émergent quand les partis politiques ou les politiciens sont pas capables d'apporter des réponses politiques aux enjeux identitaires qui sont soulevés par les gens. Hein?
Okay.
Souvent, les gens ils ont des malaises identitaires, puis là, ils se créent un bouc émissaire, là, que ce soit l'immigrant, la madame voilée, ou tel bouc émissaire, les multiculturalistes, à une époque, c'était les Anglais, bon, etc.
Oui.
Et donc, on se crée un bouc, tu sais, il y a des situations où les gens se créent des boucs émissaires, puis s'il n'y a pas de réponse politique, ben là, ça devient le chaos, parce que les gens trouvent, ils essaient de former des partis, ils essaient de se rendre légitimes aux yeux des gens, mais avec un discours raciste. Donc, ça dépend beaucoup de la réaction des politiciens pour gérer les insatisfactions, puis entendre ce que les gens ont à dire, gérer les insatisfactions ou les peurs identitaires des gens, les peurs qui sont souvent associées à la perte d'emploi, tu sais, la concurrence avec les immigrants, selon les contextes, ou et donc, par exemple, dans les régions où il y a peut-être souvent des régions plus éloignées là, qui ont peur de disparaître là, parce que les écoles ferment ou les hôpitaux ferment, etc., ben il faut essayer de répondre à ces peurs-là. Donc, ça dépend vraiment de la gestion. Puis, M. Legault a donné une réponse. On n'est pas nécessairement d'accord ou tout le monde avec ça, là, mais il a comme essayé de tasser un peu des groupes populistes identitaires qu'on a vu après l'attentat de Québec émerger le plus dans les médias, comme la Meute, Atalante, la Fédération des Québécois de souche, qu'on peut appeler des groupes ultranationalistes. Mais il a essayé de répondre un petit peu à ces groupes-là, notamment en adoptant le projet de loi 21, qui est comme une réponse pour un peu calmer les peurs des gens.
Oui.
Et moi, je pense que c'est beaucoup, il a joué là-dessus. Je dis pas que je suis d'accord avec ça nécessairement, mais c'est une stratégie politique qui est un type de réponse, en fait, qui a été donnée à des peurs identitaires chez certains groupes. Donc, j'ai l'impression que M. Legault, il essaie vraiment de ménager la chèvre et le chou, comme on dit.
Pas évident.
Et donc, ses réponses essaient de... Mais les insatisfactions puis les mouvements sociaux qui portent ces insatisfactions-là ou ces demandes sociales ou politiques-là, c'est aux politiciens à répondre avec un certain équilibre. Là. C'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui est content entièrement des réponses. Mais ça va être la même chose avec le racisme systémique, c'est-à-dire il va falloir qu'il y ait une réponse politique claire, nette, pour régler les insatisfactions et les inconforts psychologiques, sociaux, culturels, politiques, etc., que les gens expriment à travers ça.
Bien, un entretien fort instructif. Merci beaucoup de votre éclairage, Mme Potvin, puis au plaisir de poursuivre cette discussion-là, parce que je pense qu'il va falloir en jaser encore beaucoup, beaucoup pour avoir la société qu'on veut. Merci beaucoup, Mme Potvin.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Mme Potvin, professeure titulaire en sociologie de l'éducation, spécialisée en rapport ethnique à l'UQAM.